Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
C'est RMC, c'est le week-end des experts qui se poursuit. Tout à l'heure, ce sera la forme, la santé avec Christian Ikea entre 8h et 9h avec la fermeture des salles de sport dans pas mal de villes et de régions de France. Comment continuer à faire du sport? Il y a des alternatives. Peut-être les aviez-vous découvertes pendant le confinement. On y reviendra tout à l'heure grâce au net aujourd'hui, grâce à YouTube, grâce aux réseaux sociaux. On a des coachs qui sont quasi à la maison et on en recevra un tout à l'heure. Christophe Ruel sera avec nous. Et puis, bien sûr, les conseils santé du docteur Christian et qui a entre 9 et 10, ça sera la vie numérique avec Raphaël Grably. Comment choisir sa nouvelle console de jeu en cette fin de l'année 2020 avec, vous le savez, la nouvelle PlayStation 5, mais aussi la nouvelle Xbox. Et quels sont les jeux qui valent le détour pour cette fin d'année? On verra ça donc avec Raphaël et notre invité. Mais dans l'immédiat, 7h-8h, vous le savez, c'est la maison et c'est avec Christian Pessé. Bonjour Christian.
Eh bien, bonjour mon cher François.
Alors, Christian, tout à l'heure,
oui.
On va parler du rôle de l'architecte d'intérieur dans la maison.
Oui, c'est un métier qui n'est pas forcément tout à fait connu et c'est un maillon essentiel de l'aménagement et de la décoration de nos intérieurs. Mm-hmm. Donc, nous verrons cela avec une spécialiste de la question, Sylvie Modigliani, qui est architecte d'intérieur et qui va donc nous livrer tous les secrets de cette profession.
Voilà, et on parlera aussi de cette plateforme de mise en relation des architectes d'intérieur.
Voilà, Géraldine Ball, qui là, elle, intervient entre les architectes d'intérieur et les professionnels, parce que, c'est-à-dire ceux qui font les travaux, on va voir que la coordination, tout ça, n'est pas forcément évidente, et le choix des bons artisans également.
Alors c'est peut-être un sujet qui vous inspire, sans doute qu'il vous inspire. Si vous avez des questions justement pour le réaménagement de votre intérieur, votre déco d'intérieur, vous voulez des conseils, n'hésitez pas, le 3216, l'appli RMC Direct Studio, on évoquait aussi bien sûr ces nouvelles tendances avec le télétravail. Forcément, on doit réaménager sa maison différemment.
Évidente.
C'est clair. Donc vos questions, 3216, l'appli RMC Direct Studio. On évoquera aussi tout à l'heure cette... volonté d'interdire les chaudières gaz d'ici l'été 2021. C'est demain,
oui,
hein, ça.
Oui,
hein,
c'est demain. Alors, c'est pas toutes les chaudières gaz. Votre chaudière ne va pas être interdite, j'y reviendrai. Mais le gouvernement, à travers la ministre de l'Environnement, Barbara Pompili, eh bien, a annoncé ex abrupto que dans le neuf, on ne pourrait plus installer de chaudières gaz.
Ce qu'on ne va pas enlever celles qui fonctionnent déjà.
Non, et puis
on ne pourra plus en installer.
Alors, dans le neuf.
Dans le neuf.
Dans le neuf. Mais on va voir, il y a moyen de pousser un coup de gueule, sur le sujet.
D'accord, ce sera en toute fin d'émission. Et puis donc, je vous le rappelle, très important dans ce rendez-vous maison à tout moment, le 3216, le standard Amina attend vos questions, l'appli RMC Direct Studio. Vous nous joignez par Direct Studio, laissez-nous surtout votre numéro de téléphone, c'est important. On va accueillir Francis dans une minute. Il a fait appel à une société d'innovation qui n'a pas bien fait son travail, donc il n'est pas content. Francis, il est là dans un instant. Mais pour débuter, vous le savez, c'est le conseil de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton. De Christian Pesset.
Et le conseil, Christian, en ce samedi matin, comment garantir ou améliorer le tirage d'une cheminée?
Eh oui, parce que vers l'époque, c'est à la flambée de bûches dans la cheminée, évidemment, qu'il s'agisse d'un foyer ouvert, il y en a encore, et ou un insert, ou encore un poêle à bois. Alors, la qualité de l'évacuation des fumées et l'alimentation en air frais du foyer, eh bien tout ça, c'est capital pour votre agrément, c'est capital pour le rendement, c'est-à-dire la qualité de chauffe, mais aussi pour votre sécurité. Alors, dans les semaines qui vont venir, un certain nombre d'entre vous vont rejoindre peut-être une résidence secondaire, vont louer peut-être un appartement ou une maison. Et évidemment, s'il y a dedans une cheminée, la tentation, ça va être de l'utiliser et de faire une bonne flambée. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que les bûches brûlent bien? Eh bien, c'est de créer ce qu'on va appeler un mouvement ascensionnel. C'est un peu technique comme démonstration, simplement que la cheminée tire bien, c'est-à-dire qu'il y ait un mouvement donc du bas vers le haut, une aspiration respiration, donc des fumées, ce qui appelle aussi du coup l'arrivée d'air frais, on le comprend, puisqu'il y a un moment, où on remplace de l'air qui était frais par de l'air, on va avoir donc cette montée dans la cheminée, et il faut que ça se fasse correctement. Alors pour que ça se passe bien, il faut d'abord déjà que le conduit soit propre. On parle de vacuité du conduit techniquement, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui le bouche, parce qu'il peut y avoir des tas de choses qui le bouchent. D'abord peut-être l'accumulation de ce qu'on appelle le calcin dans le conduit si ça n'a pas été ramené, et puis aussi éventuellement il y a des petits oiseaux ou des gros qui peuvent faire des nids.
Ça arrive souvent, ça, des nids comme ça,
très souvent, surtout dans les résidences secondaires qui sont pas les oiseaux sont tranquilles, et les champions de ça ce sont les corbeaux et les pies qui peuvent arriver donc à boucher carrément le conduit. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le conduit soit ramené. Je rappelle que normalement dans presque toutes les régions en France, dans tous les départements, on doit ramener deux fois son conduit de cheminée, une fois pendant la période de chauffe, une fois hors de période de chauffe. Et c'est pas parce que vous n'utilisez pas votre cheminée que ça ne doit pas être fait. Ah, donc c'est pas parce que vous l'utilisez trois ou quatre fois par an que ça ne doit pas être fait. Vous devez avoir un certificat une attestation donc du professionnel qui l'a fait. Alors, il faut que la cheminée soit bien conçue aussi, qu'elle soit en rapport. Des fois, on change, vous savez, la partie décorative et le foyer de la cheminée sans se préoccuper du ratio avec le conduit. Alors, tout ça, je ne vais pas vous les donner tout de suite, les ratios. Je vous les donnerai sur la page Facebook, donc je mettrai ça dans la matinée. Point très important, alors là c'est un peu technique, mais il faut que la souche de la cheminée dépasse de 40 cm le faîtage de votre toiture. Et de préférence que la cheminée soit du côté opposé au vent dominant. Parce que vous avez un effet de dépression qui se produit, le vent va buter sur la toiture, va monter et donc va créer un phénomène d'aspiration. Ce sont les conditions idéales. Pour que ça fonctionne bien. Attention aux obstacles environnants et à l'évolution, on va dire, de l'environnement. Vous pouvez très bien avoir pendant toute l'année un arbre qui est poussé et qui du coup va perturber le tirage, il faudra le faire élaguer. Ça c'est aussi quelque chose d'important. Il a pu y avoir aussi une construction qui s'est élevée autour de votre maison
et qui change les dépressions autour.
Voilà. Alors attention aussi à l'installation des VMC, vous savez, les ventilations mécaniques simple flux, notamment parce que elles créent une dépression dans la maison et elles peuvent aller jusqu'à inverser le tirage. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire le refoulement pur et simple dans la pièce. C'est la même chose avec des hottes de cuisine extrêmement puissantes. Parce que là aussi, il y a une aspiration qui se crée. Attention aussi aux travaux d'isolation, au remplacement des fenêtres qui ont pu être faits. Parce que du coup, comme ça devient très étanche, il n'y a plus d'air qui rentre dans la maison et donc la cheminée va du coup attirer plus. Alors à ce moment-là, il faut amener avec une canalisation de l'air vers le foyer. Les chauffagistes savent très bien faire ça. Alors si vous avez bien du bois sec, évidemment, c'est aussi, j'en ai parlé il y a quelques semaines, mais je vais vous parler un petit peu de l'allumage du feu. C'est souvent la galère, on souffle, on fait de l'air, tout ça, on n'arrive pas à l'allumer. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut utiliser d'abord des bûchettes d'allumage et des bûches bien sèches, je viens de le dire, des bûches courtes, des bûches de 33 cm, parce que c'est pas la peine de vouloir faire brûler des arbres dans votre cheminée. Il faut prendre des bûches écorcées et qui sont écalées. C'est-à-dire qu'ils sont fendus. Faut pas essayer de faire brûler un rondin avec des écorces. Ça ne prend jamais.
Ah,
si, ça prend. Oui. Mais enfin, il faut vraiment que la cheminée soit à tout berzingue. Il faut préchauffer le conduit. Surtout quand je prenais la configuration, on arrive dans une résidence secondaire. Hop, on veut allumer du feu. Eh ben, il faut préchauffer le conduit avec du papier. Parce que sinon, le conduit est froid. Et donc, ça va s'opposer au tirage. Donc, vous faites brûler du papier, un petit peu de carton éventuellement. Et donc, ça va chauffer le conduit. Et puis, alors, l'allumage. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. C'est l'allumage par le haut. Alors, qu'est-ce qu'on fait normalement? On commence à mettre du papier, on met un allume-feu, on remet des petites bûchettes, on essaie d'allumer ça et on ramène ses bûches après. Eh ben, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est par le haut. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez deux ou trois bûches en quinconce, vous savez, bien placées sur votre grille ou entre vos chenets. Vous placez dessus deux ou trois poignées de bûchettes d'allumage.
Hein, au-dessus. C'est bizarre parce qu'on a plus tendance à mettre en dessous.
Au-dessus. Et puis encore au-dessus, vous mettez les allumes-feu. Et là, vous allumez. Et c'est bluffant. Plaivard, je sais qu'il y en a un certain nombre du coup qui vont tenter ça. C'est bluffant parce que, eh ben, c'est le feu qui gagne donc progressivement les bûches. Il y a rien à faire, il y a qu'à regarder et ça s'allume en quoi, en quelques minutes, ça marche.
C'est bon parce que c'est vrai que on se dit c'est l'inverse des lois de la physique. Exactement. Finalement.
Alors c'est bluffant. Faites-le, vous allez voir, vous allez tester.
Donc on met les bûches, le petit bois,
les bûches, et l'allume-feu au-dessus. Et hop, une allumette et on regarde. c'est assez formidable. Alors,
ça marche aussi pour les barbecues ou pas?
Oui, ça peut marcher aussi pour les barbecues. Bien sûr. Mais les barbecues, c'est un peu différent puisque là, c'est du charbon de bois. Oui. Donc, ça s'allume de toute façon, normalement, très facilement. Alors, la sécurité, hein, attention, ne laissez jamais brûler des bûches hors de votre présence. C'est-à-dire, ne remettez pas une bûche 10 minutes avant la fin du repas et le moment où vous allez quitter votre salle à manger ou votre salon. Ne faites jamais arrêter de faire des feux dans les chambres parce que là, ça, des feux de bois dans les chambres, ça peut être redoutable. N'oubliez pas que si vous avez du bois qui est humide, s'il y a une mauvaise combustion, il risque d'y avoir un dégagement de monoxyde de carbone. Mmh. C'est une catastrophe. Le monoxyde de carbone, on ne le sent pas. Simplement, d'un seul coup, on a mal à la tête et on a des vomissements. Et les séquelles peuvent être irréversibles, voire aller jusqu'à l'asphyxie. Donc, attention. Attention aussi à ne pas prendre, par exemple, des bûches de résineux qui jettent des escarbilles dans la pièce. Vous avez un tapis, hop, un incendie. Donc, faut pas jouer avec ça. Toujours aussi faire attention aux enfants, aux jeunes enfants, aux animaux domestiques, le chat, le chien. Ce sont des réflexes qu'on n'a plus parce que finalement, on n'en fait pas souvent. Mmh. Donc, il faut être vraiment extrêmement prudent.
C'est vrai qu'aujourd'hui, allumer le feu d'une cheminée, c'est un plaisir, alors qu'il y a encore, quelques dizaines d'années, c'était une nécessité.
Bien sûr.
Donc, c'est complètement différent. On a perdu l'habitude de le faire.
Alors, les foyers ouverts sont à faible rendement, mais là-dessus, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec certains spécialistes qui disent qu'il y a qu'un rendement de 25% lorsqu'on a un foyer ouvert. À mon avis, on ne prend pas suffisamment en compte le rayonnement. De même, j'en ai souvent parlé aussi pour les radiateurs, c'est-à-dire qu'il y a une part de convection, donc qui chauffe l'air, mais il y a aussi cette part de rayonnement qui fait qu'on le sent bien quand on passe devant un feu de cheminée, pas le feu du conduire. Voilà.
On a Christian, tiens, par exemple, qui nous dit que justement, il est obligé d'éteindre sa VMC. Voilà, quand il fait une flambée, parce qu'autrement la fumée rentre dans la maison.
Et voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une inversion de tirage.
C'est un peu comme une hotte de cuisine hyper puissante finalement. Voilà, ça inverse le tirage.
Mais alors attention, ne coupez pas les VMC durablement, exceptionnellement pendant que vous faites une flambée quand vous êtes dans ce cas-là. Mais sinon, la VMC, je l'ai dit aussi une émission récente, ça doit toujours fonctionner. Ça ne doit pas s'arrêter.
Voilà. Et puis surtout, ne pas oublier de la rallumer quand on a terminé de faire son feu de cheminée. Francis est avec nous au 32-16 maintenant. Bonjour Francis.
Oui, bonjour.
Bonjour Francis. Messieurs.
Bienvenue Francis.
Merci pour votre très intéressante émission. Pour être bref, j'ai fait appel à une entreprise de rénovation pour plusieurs choses. Oui. Le remplacement, la pose d'une plaque PST en toiture sur une pièce annexe. Surtout pour traiter des fissures. Et tout ça, ça a été fait de manière extrêmement déplorable. Donc j'ai envoyé une lettre recommandée à la société en lui demandant de prendre contact avec son assurance. Et le patron de l'entreprise m'a dit « je ferai rien ». Donc voilà.
Bon, alors écoutez, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que vous aviez comme document au départ? Est-ce que vous aviez un devis en bonne et due forme?
Devis en bonne et due forme, signé.
Avec le détail de ce qui devait être fait?
Oui, tout à fait. Bon.
Est-ce que vous avez eu une réception en bonne et due forme?
Non.
Voilà,
j'ai tout payé par chèque.
Non, mais
Et pour se faire payer, le solde, le patron de l'entreprise est arrivé sans prévenir un week-end.
Il ne fallait pas le payer.
Et c'est fait très menaçant. Il faut savoir que je suis handicapé.
Il y a un truc, ça s'appelle les gendarmes. Oui. Ah oui, non, mais faut pas hésiter, hein, vous savez. Oui. Faut pas hésiter. D'abord, il doit y avoir une réception. Comme dans tout travaux, il doit y avoir un moment où vous êtes avec le professionnel, vous regardez ce qui a été fait. Si vous considérez que ça n'a pas été bien fait, vous faites des réserves, comme pour la réception d'une maison neuve ou d'un gros chantier, et vous signifiez tout ce qui n'a pas été. Vous avez de toute façon le droit de retenir 5% du prix des travaux. C'est une généralité que vous pouvez consigner et donc ne payer que lorsque
la totalité des travaux ont été faits.
Que tout a été fait. Alors ensuite, là, vous êtes visiblement sur des travaux parcellaires, c'est-à-dire que vous aviez eu simplement un devis avec différents postes. Voilà, différents postes de travail. Bon, bah, après, je sais pas où vous en êtes maintenant, mais l'entreprise va faire jouer son assurance, ça ne vous regarde pas. Alors après, c'est pas l'assurance de l'entreprise qui va vous payer quelque chose. Il va falloir des expertises, ça va être extrêmement complexe. Donc, ce qu'il faut, il faut voir s'il y a des travaux qui concernaient la décennale. On peut parler de fissures. Alors, est-ce que c'était des fissures d'enduit ou est-ce que c'est des fissures de grosses œuvres?
Non, alors il y avait dans la mission qu'avait cette entreprise de rénovation, il y avait de grosses fissures, donc qu'elle a agrandi, mis des agrafes.
Oui, attendez, monsieur, vous ne me répondez pas. Est-ce que ce sont des fissures structurelles, c'est-à-dire qui traversaient la maçonnerie de part en part de votre mur, ou est-ce que ce sont des fissures esthétiques?
C'est des fissures esthétiques.
D'accord. Donc c'est du rebouchage, donc ça ne touche pas à la décennale. Là, vous êtes dans les travaux basiques d'entretien, de rénovation non structurelle. Maintenant, vous êtes dans le droit commun, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait de ce qui s'est passé, on vous envoie une lettre recommandée. Si la lettre recommandée, vous pouvez peut-être interroger votre propre assurance, notamment pour tout ce qui va être l'aspect juridictionnel, c'est-à-dire l'aspect éventuellement de poursuite. Et puis, si l'entreprise ne fait pas ce qu'il faut, vous allez devant le tribunal, il n'y a pas d'autre solution.
Francis, merci pour votre appel.
C'est bien embêtant, ce genre de situation.
Évidemment, évidemment.
Puis en plus, si les gens sont menaçants.
Christian, il est 7h24. Oui. On va revenir dans un instant et on va évoquer le rôle de l'architecte d'intérieur dans l'aménagement du logement. Vos questions là-dessus, sur ce sujet, peut-être envisagez-vous de repenser votre intérieur, de réaménager par exemple une pièce ou pourquoi pas toute votre maison. Si vous avez une question particulière, c'est le moment ou jamais. Hein. 32-16, l'appli RMC Direct Studio, c'est la maison.
RMC,
le week-end des experts.
RMC
jusqu'à 8h.
Architecte numéro 8.
Non, c'est pas c'est. Enfin, c'est dépensé, pourquoi?
Votre maison.
Tous mes architectes sont occupés. Et c'est toi, numéro 10, qui en sera l'architecte.
C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire c'est moi qui vais architecter tout le...
Tu es le seul disponible.
Ah non, je suis pas occupé.
Il n'est pas occupé, lui.
Ils sont fous, ces architectes.
Allons voir ce qui se passe.
François Sorel.
Christian Pessé.
Ah oui, c'est vrai qu'en plus, à l'époque, les architectes avaient un peu la pression.
Voilà, c'est ça. Mais on va tout de suite distinguer la profession d'architecte.
Bien sûr.
Qui est là pour concevoir
faire le plan, faire la
réalisation de la maison. Et puis, le rôle de l'architecte d'intérieur, qui est une profession distincte, même s'il y a le mot d'architecte dans les deux. Alors, nous avons avec nous Sylvie Modigliani, bonjour.
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 Vous êtes architecte d'intérieur, ancienne présidente de l'UNED de Paris ou de la région parisienne. C'est la structure syndicale professionnelle qui est affiliée à la FFB, Fédération Française du Bâtiment. Et puis nous aurons également au téléphone Géraldine Ball, qui est cofondatrice de la plateforme UpFab, qui est une plateforme de mise en relation des architectes d'intérieur et des artisans, français. Bien de chez nous, mais vous me direz, c'est pas une profession très délocalisable malgré tout, et qui donc nous répondra sur, la coordination aussi des travaux. Sylvie Modigliani, donc vous êtes architecte d'intérieur. j'ai pris cette précaution de bien distinguer avec les architectes donc qu'on appelait DPLG, diplômés par le gouvernement.
Je suis tout à fait. Diplômés par le gouvernement, voilà. ça a changé de nom
maintenant, mais c'est plus ça. Est-ce qu'on peut me définir donc justement le métier d'architecte d'intérieur?
Alors, le métier d'architecte d'intérieur, en fait, l'architecte d'intérieur, si on veut aller vite, il intervient après l'architecte. C'est-à-dire qu'il intervient à l'intérieur d'un bâtiment. Il peut intervenir soit pour des particuliers, donc pour une maison ou pour un appartement, soit pour des boutiques, soit pour des hôtels, des restaurants, des bureaux.
C'est un aménageur, finalement, on peut dire?
On peut dire ça, c'est un aménageur. Et il intervient avant le décorateur,
d'accord,
par exemple.
Oui.
Il peut intervenir pour des musées, pour de la scénographie. Voilà, c'est assez large, finalement.
Alors, ça n'est pas une profession réglementée comme les celles de l'architecte?
Non.
Et alors, ça veut dire quoi? Quelle formation? Parce que si demain, je m'intitule architecte à l'intérieur, je peux le faire?
Vous pouvez, tout d'accord. à fait. Vous pouvez demain mettre votre plaque et décider que vous êtes architecte d'intérieur,
d'accord.
Malheureusement.
Alors, malheureusement, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme formation? Parce que qu'est-ce qu'on peut demander? Je vais avoir un architecte, je vais avoir justement la plaque. Je sonne, je dis bonjour monsieur, bonjour madame, architecte d'intérieur. Vous pouvez me dire la formation que vous avez eue?
Alors, il y a plusieurs types de formations, de plusieurs niveaux. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site donc de l'UNED, l'Union nationale des architectes d'intérieur. Il y a une page où vous trouvez expliqué les différents types de formations. Il y a différents niveaux. Il y a un BTS que je crois qu'il s'appelle Design d'espace maintenant, qui est dispensé par différents types d'organismes. Et puis il y a des formations Bac+4 qui vont jusqu'à Bac+5, qui forment donc des architectes d'intérieur. C'est majoritairement des formations en art appliqué.
D'accord, et qui sont donc diplômés, qui peuvent démontrer leurs qualifications.
Tout à fait, tout à fait. Alors après, effectivement, les formations universitaires, ce sont des formations théoriques qu'il faut évidemment compléter par une formation pratique et par de l'expérience, bien sûr.
Alors, les garanties de compétences, c'est quoi? Parce que, encore une fois, là, il y a l'aspect diplômant, et puis c'est quoi après? C'est du bouche à oreille?
Alors, ça peut être de plusieurs ordres. Il existe aujourd'hui, donc, comme vous le disiez, c'est pas une profession marketée, enfin en tout cas protégé. En revanche, il existe des organismes comme l'UNED ou comme le CFAI, le Conseil français des architectes d'intérieur, qui labellisent ou qui qualifient les architectes d'intérieur, c'est-à-dire qui donne une qualification à l'aide d'une commission qui vérifie un dossier et qui vérifie les compétences d'un architecte d'intérieur.
D'accord.
Alors, vous avez évoqué rapidement le sujet il y a un instant, mais nous avons Lionel qui nous demande quelle est la différence entre un architecte d'intérieur et un décorateur d'intérieur.
Alors, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que l'architecte d'intérieur va travailler plus sur les volumes et sur les espaces. C'est-à-dire que si on veut être vraiment très très schématique, l'architecte d'intérieur, il peut casser des murs. Si on veut le faire très très vite, avec l'aide le plus souvent d'un bureau d'études qui va lui assurer que le mur qui casse, comment le renforcer, s'il y a besoin de le renforcer, etc. Le décorateur, souvent, il intervient dans un espace qui existe et il va l'habiller, etc. Mmh. Souvent, l'architecte d'intérieur, il est également décorateur. Ou alors, il travaille avec un décorateur.
D'accord. Vous avez parlé de casser des murs, donc ça veut dire qu'il faut quand même une certaine compétence et également ce qui va avec l'assurance décennale. Donc,
il y a certains murs qu'on ne peut pas casser.
Non.
Il y a certains murs qu'on ne peut pas casser ou alors qu'on casse en s'assurant en décennale, bien sûr, mais surtout en s'assurant qu'on peut le faire ou qu'on renforce le mur de façon correcte pour pouvoir l'ouvrir.
On ne peut pas dire qu'il y a des murs qu'on ne peut pas casser. Pratiquement, on peut casser tous les murs, mais à condition de faire des reprises de charge, à condition d'avoir les compétences techniques et qui, là, sont peut-être plus du ressort de l'architecte, non?
Tout à fait, ou d'un bureau d'études techniques.
D'accord.
D'accord, donc là, vous faites appel à un vrai architecte.
Oui,
ou alors
ou à un bureau d'études techniques.
D'accord. Alors, comment vous élaborez un projet? C'est-à-dire, je vous fais venir chez moi. Moi, à Paris, je suis dans un immeuble haussmannien, des volumes assez importants, des murs justement de refend, des cloisons ou autres. Comment vous faites? Quelle est votre méthode?
Alors, d'abord, je vous écoute.
Oui.
ce qui est quand même important. Ensuite, je prends connaissance des lieux, justement. J'écoute le lieu, c'est-à-dire je vois justement comment il est fait, quelles sont ses contraintes. Et puis ensuite, bah, je fais un peu la synthèse de tout ça. Et à partir de ça, j'imagine, en fonction de ce que vous m'avez demandé, comment est-ce que je peux répondre à votre, à votre cahier des charges.
Et alors, quel projet vous allez me faire ? Concrètement, ça va ressembler à quoi ?
Concrètement, ça ressemble d'abord à des plans, ensuite à des vues en 3D. Ensuite à des planches d'ambiance avec des images en fait concrètement des planches de couleurs, de matériaux, et puis en fait on va avancer en affinant au fur et à mesure. C'est un peu un jeu de ping-pong. Vous allez me dire ça me plaît pas, vous avez compris ou au contraire vous avez pas compris, et puis on va avancer comme ça au fur et à mesure.
Tiens, on parlait de mur porteur il y a un instant. Didier nous demande, comment, Christian, reconnaît-on un mur porteur ?
Alors, c'est très difficile. Il y a de l'évidence, c'est-à-dire un mur qui fait 30 cm d'épaisseur, il est forcément porteur. On peut pas imaginer qu'on ait fait un mur de 30 cm pour simplement séparer une pièce. Alors, après, il y a toute la difficulté de compréhension globale du bâtiment. Si on est, par exemple, dans un très vieux bâtiment, des cloisons qui peuvent apparaître n'étant pas porteuses peuvent l'être par répartition des charges. Parce que la simple définition, c'est quoi ? Une cloison non porteuse, c'est qu'elle est mince, c'est qu'elle est dans un matériau plus ou moins fragile, et que quand on fait toc-toc, ça résonne immédiatement, et c'est notamment de l'autre côté.
Un peu comme du placo. Bon,
d'accord. Mais donc, la structure elle-même, eh bien, il faut toujours, de toute manière, prendre conseil d'un professionnel. Évidemment, si vous avez, vous parliez de plaques de plâtre, si vous avez une séparation plaque de plâtre, elle ne va pas être porteuse.
Oui, juste, je voudrais rajouter quelque chose. Dans un immeuble, par exemple, une structure, une cloison mince, en fonction de ce qui a été ouvert, par exemple, dans les appartements au-dessus de chez vous, peut devenir semi-porteuse.
Donc
attention, faites attention à ça. Éventuellement, consultez l'architecte de l'immeuble qui va connaître les appartements au-dessus, ce qui a été fait au-dessus et en dessous de chez vous, parce qu'une cloison qui en apparence fait 7 ou 8 cm d'épaisseur peut être devenue porteuse.
Attention, dans vraiment l'ancien, c'est-à-dire lorsque vous avez une vieille ferme, là, vous dites, il y a plein de cloisonnements, vous dites, allez, je vais faire un grand espace, je balance tout, et là, il y a des risques parce que il y a une répartition des charges qui peut se faire sur des cloisons qui, individuellement, ne sont pas porteuses.
Parce que c'est ça la tendance aussi, non?
Bien sûr.
C'est le
un
fait
peu moins.
D'avoir des pièces de plus en plus grandes, des pièces
space.
À vivre de plus en plus grandes, ne plus séparer la cuisine du salon, enfin,
ouais,
voilà, c'est des tendances, ça, quand même.
Alors, une fois qu'on en est là, je dirais, on va passer aussi aux entreprises. On va poser. On a Géraldine Ball qui nous attend. Bonjour Géraldine, vous êtes cofondatrice de la plateforme HopFab, H-O-P-F-A-B. Et vous nous adressez pas directement aux particuliers, mais vous êtes une interface entre les architectes d'intérieur, comme Sylvie Modigliani, et les entreprises. C'est cela?
Oui, bonjour Christian.
Bonjour.
Effectivement, HopFab, c'est vraiment un service qui va faciliter l'accès et la collaboration entre des artisans français sélectionnés et des architectes d'intérieur. Donc pour permettre la réalisation de projets d'agencement sur
Alors,
mesure.
Comment vous sélectionnez vos entreprises ?
Alors, nous, on a un processus de sélection qui se fait, en deux étapes. Il y a un processus amont, où on va vraiment aller regarder le profil de l'entreprise, donc vérifier la santé financière de l'entreprise, vérifier ses références projet, contrôler ses assurances. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est quelque chose de très important.
Essentiel.
Et puis, exactement. Et puis, développer vraiment une base de connaissances sur chaque entreprise, chaque artisan, être capable de savoir ce qu'il peut faire, l'outillage dont il dispose, etc. Donc, il y a vraiment cette...
Oui. Est-ce que vous jouez aussi le rôle d'interface ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes maître d'œuvre ou pas du tout ? Ou est-ce que c'est l'architecte d'intérieur qui l'est ?
C'est l'architecte d'intérieur qui reste maître d'œuvre. Nous, ce que l'on fait, c'est vraiment comprendre le besoin et les attentes au niveau du projet, donc avoir cette étape de qualification. Ensuite, présélectionner les entreprises qui vont être capables de répondre à ce cahier des charges. Je prends quelques exemples. La disponibilité de l'atelier par rapport au délai de livraison, son positionnement prix par rapport au budget du client, etc. Et ensuite, présenter des ateliers avec... pour permettre à l'architecte de poursuivre ensuite son
projet. Est-ce que, étant particulier, je peux demander à l'architecte d'intérieur de passer par vos services, par exemple ?
Bien sûr, vous pouvez demander à un architecte d'intérieur de passer par nos services. Ça permet d'accéder, voilà, à cette communauté d'artisans français sélectionnés et d'avoir des garanties supplémentaires.
D'accord. Donc, vous êtes quoi ? Vous êtes un intermédiaire ou vous êtes un conseiller ?
On est un facilitateur, on va dire.
Un facilitateur. D'accord. Merci Géraldine, restez en ligne, on aura peut-être besoin encore de vos lumières, si j'ose dire. Sylvie, comment ça se passe ? Il y a un contrat derrière, justement. Est-ce que vous jouez le rôle d'organisateur des travaux, ce qu'on appelle un maître d'œuvre ? Comment ça fonctionne ? Et puis, quelque part aussi, combien ça coûte ? Parce que ça n'est certainement pas gratuit, vos services.
Effectivement. Alors nous, notre rôle, c'est de, on fait en général un appel d'offres entre plusieurs artisans, et puis on conseille le client une fois qu'on a reçu l'ensemble des devis, on examine les devis, on fait l'analyse du rendu des devis. En général, on a rencontré les entreprises, donc on est capable d'évaluer le professionnalisme des entreprises qui ont répondu. On conseille le client sur l'entreprise à retenir.
D'accord.
L'entreprise ou les entreprises. C'est le client qui contracte, c'est-à-dire que nous on lui propose, on le conseille, on lui prépare les contrats. Mais c'est lui qui signe avec l'entreprise.
Donc vous n'avez pas vraiment de responsabilité en cas de malfaçon ?
On a une responsabilité dans la mesure où on conseille le client. Mais si, c'est le client qui, au final, a le choix.
D'accord.
Donc, non, après, c'est l'entreprise qui prend... Enfin, c'est le client qui contracte directement. Donc nous, on n'a pas de responsabilité. On a la responsabilité dans la mesure où nous, on suit le chantier et on s'assure que l'entreprise travaille dans les règles de l'art. Et on suit le chantier, effectivement, et on aide le client à vérifier que ce qui a été demandé est fait dans les temps, dans le prix et dans les règles de l'art.
Et alors, ça coûte combien ? Quel est le mode de rémunération ? Le contrat en amont ?
Alors, nous, on a un contrat avec le client directement aussi. Et en fait, il y a différents types de rémunération. Soit c'est du forfait.
Oui.
Donc à négocier en direct entre le client et l'architecte d'intérieur. Soit c'est une partie de forfait sur la partie conception, la partie qu'on évoquait tout à l'heure, et une partie de pourcentage du montant des travaux pour la partie suivi de chantier. Soit c'est complètement en pourcentage du montant des travaux. Hors-taxe sur hors-taxe.
Et vous n'êtes pas rémunéré aussi par les entreprises en retour ?
Déontologiquement, non.
Oui, parce que c'est toujours l'inquiétude qu'on peut avoir lorsqu'on a un pourcentage sur les travaux. On se dit, bah oui, l'architecte ou l'architecte d'intérieur va pousser à la dépense pour avoir un peu plus de retour de rémunération.
Non, le déontologiquement, non. Ça s'est fait.
Oui.
Ça s'est fait.
Oui.
Le souci, c'est d'être pieds et poings liés avec une entreprise. Enfin, nous, on est vraiment entre les deux et on est au service du client.
Est-ce que le fait qu'une structure comme la vôtre soit affiliée à la Fédération française du bâtiment, ça constitue aussi une certaine garantie ?
L'UNED, vous voulez dire l'Union nationale des architectes d'intérieur ?
Parce que vous êtes à l'UNED, et l'UNED est elle-même à la FFB.
Ah bah bien sûr, parce qu'on a on a une aide méthodologique. En permanence, on est formé en permanence. On a un service juridique qui nous assiste en cas de souci auquel on peut faire appel. On a accès à des assurances. On est soutenu en permanence.
D'accord. Si on veut avoir des détails et votre relation, j'ai mis vos adresses mail sur notre page Facebook. Donc c'est facile. Vous y allez pour rentrer en contact avec vous. Merci Sylvie Modigliani. Et puis merci également à Géraldine Ball.
Allez, on revient. Merci beaucoup. On revient dans un instant. On part sur autre chose avec Anna qui sera avec nous au 32-16. Elle va nous parler de la rénovation de ses fenêtres en bois pour un entrepreneur. Visiblement, l'entrepreneur a fait des bêtises, Christian.
Bah, on va voir.
On va rentrer dans le détail. Et puis, on retrouvera aussi votre coup de gueule de ce samedi matin. Je vous rappelle que, bien sûr, à tout moment, vous pouvez joindre Christian, 32-16. L'appli RMC Direct Studio avec votre numéro de téléphone. On revient dans une minute.
RMC.
Le week-end des experts.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Quasiment 8h-10, le retour de ce week-end des experts. La maison, toujours Christian Pessé à mes côtés.
Tout à l'heure, on évoquera cette décision de la ministre, hein, Barbara Pompili, d'interdire les chaudières gaz dans les constructions neuves à partir de l'été 2021. Donc c'est quand même assez... Les délais sont courts.
Oui, c'est un peu court, quoi.
On va en parler dans un instant. Mais auparavant, c'est Anna qui est là. Bonjour Anna.
Bonjour.
Bonjour Anna.
Bienvenue Anna, on Merci. Vous écoute.
Eh bien, moi j'ai un petit souci, enfin un petit souci, c'est
un gros,
moi, c'est un gros souci.
Voilà.
J'ai une maison traditionnelle, construction traditionnelle, et l'année dernière, je me suis décidée à isoler mes fenêtres, donc changer, mais rénover mes fenêtres.
Alors attendez, je vous interromps deux secondes. Et avant, vous aviez parfaitement isolé votre maison?
Non. Non, non, non.
Alors là,
non,
non. Vous avez commencé
non,
par...
Non, j'avais des fenêtres encore simple vitrage.
Eh bien oui, alors j'en profite pour dire qu'il ne faut jamais commencer par les fenêtres. Il faut faire tout le reste et finir par les fenêtres. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas les fenêtres ne sont pas la source principale de déperdition de chaleur. Ça vient en dernier, pratiquement. Hein. Donc voilà, ce petit coup de gueule poussé, je vous laisse m'expliquer votre cas.
Eh bien, donc, ils sont venus, j'ai demandé de la rénovation en PVC. J'avais des fenêtres en bois, donc oui. Rénovation en PVC. Et j'étais étonnée de les voir déjà. Comme ils n'arrivaient pas à retirer le bois le cadre de fenêtres, ils ont cassé tous les angles. Enfin, ils ont cassé une partie du bâti, tous les angles, en tout cas.
Oui.
Ça a tout arraché, voilà.
Mais
je ne donne pas m'inquiéter. Ils ont posé donc les fenêtres, rebouché avec du plâtre, mettre de la mousse à l'intérieur, en me disant l'artisan qui connaissait très bien son métier, il n'y a pas de souci, il ne fallait pas que je m'inquiète. Sauf que après les premières pluies, j'ai eu des infiltrations.
Oui.
Le plâtre sonne creux. J'ai fait, après plusieurs appels, il est revenu, il a fini par revenir parce que j'ai appelé quand même mon assureur. Et ça, là, du coup, ça l'a poussé à revenir. Il a regardé, non. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Et il a remis un petit coup de silicone ou de l'acrylique. Enfin.
Bref, il vous a fait du mauvais bricolage.
Voilà, en me disant maintenant, ça va aller. Sauf que moi, j'ai 15 fenêtres, dont deux portes-fenêtres. Et la plupart, surtout les portes-fenêtres, découvrent.
Alors, je vais d'abord vous dire une chose. Il y a deux façons de remplacer les fenêtres. Il y a une première façon qui est à neuf, on va dire. C'est ce qu'on vous a fait, c'est-à-dire qu'on casse tout. On remet un bloc fenêtre entier avec son bâti et avec ses vantaux. Donc ça entre dans des travaux qui appellent la décennale. Ça veut donc dire la garantie décennale et normalement de votre côté la garantie dommage ouvrage, l'assurance dommage ouvrage. Ça veut dire que vous entrez dans des gros travaux et que en plus ça implique des devis extrêmement détaillés sur ce qu'on va vous faire. Après, il y a une autre solution, qu'est-ce qu'on appelle en rénovation. Et là, on ne touche à rien, simplement, on ne touche pas au bâti, et on remet simplement, on accroche de nouvelles fenêtres sur le bâti. C'est la solution la moins...
C'est ce qu'ils étaient censés faire. Hein.
Pardon ? C'est ce qu'ils étaient censés faire.
Oui, c'est ce qu'il a fait, en fait, normalement.
Oui. Non, s'il a cassé le bâti, il a fait du A9. Alors après, quand on est dans du A9, on entre donc dans la décennale, et je vous dis, normalement, il faudrait avoir pris une assurance dommage-ouvrage, ce qu'évidemment, vous n'avez pas fait, puisque vous ne saviez même pas qu'on allait vous faire ce type de travaux. Et donc, on entre dans l'étanchéité du bâtiment. Donc, ça veut dire que, de toute façon, avant d'engager des travaux comme cela, en plus, il aurait fallu qu'il soit reconnu garant de l'environnement pour que vous touchiez un minimum de subvention, parce que vous aviez droit quand même au minimum, aujourd'hui c'est entre 80 et 100 euros par fenêtre, c'est plus grand chose, mais quand on en a 17, ça commence à représenter une certaine somme. Et donc, là maintenant, vous entrez dans le conflit basique, je dirais, qui va se finir au tribunal. La première des choses, c'est à lui d'envoyer une lettre recommandée, une mise en demeure de vous faire les travaux et de dire qu'ensuite vous allez aller au tribunal. Vous n'avez pas d'autre solution, mais c'est pas bien du tout de la part de cette entreprise.
Voilà, c'est triste, hein, ça arrive de temps en temps. Hein,
ce qu'il faut, c'est avoir des devis extrêmement détaillés qui montrent bien, qui illustrent tout ce qu'on va vous faire et se dire que certains travaux, comme cela, touchent au bâti et maintenant, on entre dans la procédure. Alors, voyez votre assurance, effectivement, pour l'assurance recours, c'est-à-dire tout ce que vous allez pouvoir avoir comme assistance juridique, mais il n'y en a pas d'autre.
Christian, allez, on enchaîne avec votre coup de gueule. Je sens que vous êtes chaud bouillant.
Oui, je suis chaud bouillant parce qu'il y a une nouvelle stupéfiante qui est tombée mardi matin, le 24 novembre. C'est la décision de la ministre de la Transition écologique, Madame Barbara Pompili, d'interdire de facto les chaudières gaz dans les constructions neuves. Alors la raison, c'est l'abaissement du taux, alors tenez-vous bien, d'émissions de gaz à effet de serre dans ce qui va être la réglementation environnementale 2020, vous savez, qui se substitue à la RT 2012, qui était une réglementation purement thermique, et là qui bascule en environnemental. Alors on voit qu'au nom de l'environnement, on va pouvoir faire à peu près n'importe quoi, parce que le taux a été tellement abaissé que pratiquement il interdit de facto l'installation des chaudières gaz dans le neuf. Et cela, on annonce, ça sera pour l'été 2021, c'est-à-dire dans quelques mois, quoi, finalement. C'est encore une décision arbitraire complètement insupportable. Alors moi, je suis pas spécialement un défenseur du gaz, mais il faut admettre que c'est une énergie propre, c'est une énergie souple, ça alimente des matériels de plus en plus performants. Alors, on voit depuis des années les chaudières à condensation, je ne cesse d'en parler. Maintenant, il y a les packs hybrides qui associent la PAC quand il fait pas trop froid, qui ensuite font rentrer la chaudière à gaz quand il fait un peu plus froid. Ce sont des solutions extrêmement intéressantes. En plus, il y a des efforts considérables qui sont faits vers le gaz vert, c'est-à-dire le gaz issu de la méthanisation. C'est en pleine poussée. Ça va permettre de ne plus être sur le fossile. Donc, ce sont des choses extrêmement importantes et on va casser tout ça. On va casser tout ça sans penser à l'industrie, sans penser aux milliers d'entreprises, aux milliers d'emplois qui se trouvent menacés par ce coup près. J'hésiterai pas à qualifier cette décision de purement idéologique. Ça me paraît complètement aberrant parce que vont faire les entreprises? Vous savez combien il y a de chaudières de gens qui se chauffent au gaz en ce moment?
Ça doit être énorme.
Il y a 11 millions de foyers. Et on va perturber complètement ce marché parce que les gens vont se dire, ah ben ça va être interdit. Alors pour l'instant, il n'est pas question d'interdire les chaudières qui sont installées. Il n'est pas question d'interdire leur remplacement.
Oui, là, c'est l'interdiction sur les maisons neuves.
Sur les maisons neuves. Mais on voit très bien ce qui va se profiler. C'est qu'ensuite, on va baisser le taux. Et on va baisser le taux qui fera que, de facto, on ne pourra plus installer de chaudières gaz. Quand même, au niveau des incohérences, je rappellerai qu'il y a Madame Pompili, puis en dessous, il y a Madame Wargon. Madame Wargon, c'est la ministre du Logement. Et MaPrimeRénov' finance aujourd'hui le remplacement de chaudières gaz. C'est quand même pas, enfin, au moins, quand on est avec des revenus minimum. Donc, ne vous inquiétez pas, on va pas interdire votre chaudière chez vous, on va pas interdire de vous l'entretenir, mais cette perspective de guerre contre le gaz me paraît scandaleuse.
Ça sera le mot de la fin de Christian Pessé. Christian, on sera là la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on va voir.
7h-8h sur RMC et après la météo et les infos. C'est Christian Ekia qui prendra le relais, ça sera notre rendez-vous. Forme santé. Christian, est-ce que vous avez déjà testé la cryothérapie? Rentrer dans une espèce d'immense bonbonne à moins 160 degrés.
Il y avait
degrés.
Même des bars comme ça. J'ai vu un bar qui s'était monté.
Oui. Dans le bar, on était en anorak. Là, vous êtes en maillot, en fait.
Ah oui,
dans le,
non. J'ai fait du sauna en Norvège où on sortait là et on se baignait dans une, on se plongeait dans une piscine d'eau glacée.